إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous facilite. Nous poursuivons l'étude du livre L'exposé de la Sunna de l'imam al-Barbahari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés à sa parole, rahmahullah. Sache que les gens n'ont pas introduit une innovation sans délaisser une part équivalente de la Sunna. Prenez garde aux choses nouvelles dans la religion. Car toute chose nouvelle est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et l'égarement et ses adeptes sont en enfer. Ici, l'auteur, rahimahullah, veut attirer notre attention sur un point important. Et pour ce faire, il a utilisé le terme « sache ». Qui sert à attirer l'attention de l'interlocuteur et lui faire comprendre que ce qui va suivre est très important. Donc il nous dit « Sache que les gens n'ont pas introduit une innovation sans délaisser une part équivalente de la sunna. » L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a pris cette règle d'un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Mousned, d'après Udayf ibn al-Harith, radiallahu an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne n'innove sans qu'une sunna semblable soit délaissée. » Mais les savants ont jugé que ce hadith n'est pas authentique. Cependant, l'imam al-Darimi, rahmahullah, rapporte dans son sunan, d'après Hassan ibn Atiyah al-Muharibi, rahmahullah, qui a dit « Personne n'amène une innovation dans la religion sans qu'Allah retire son équivalent de la sunna et ne la leur rend pas jusqu'au jour dernier. » Et ce affaire est authentique. Et l'éminent savant, Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné dans son livre As-Silsila Al-Da'ifa, après avoir mentionné le hadith de Rudayf ibn al-Harith, que nous avons mentionné précédemment, il dit, rahimahullah, il se peut que certains rapporteurs du hadith ont pris le affar d'après Hassan et l'ont attribué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir entendu ces informations, il se peut que l'un d'entre vous se dise, si le hadith est faible, est-ce que la règle que l'auteur a citée est authentique? C'est-à-dire, est-ce que lorsque l'innovateur innove, une part équivalente de la sunna est délaissée? La réponse à cette question est que ceci est une règle authentique. Et il y a de nombreuses preuves qui indiquent cela. L'éminent savant, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, a cité plusieurs preuves. Parmi elles, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité. Donc le fait de mêler le faux à la vérité et l'embellir avec le faux va mener en retour à cacher la vérité. Également, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez aucun maître que lui. Cheikh l'Islam rahmahullah Ibn Taymiyyah dit à propos de ce verset, lorsque le croyant suit ce qu'Allah a révélé, il délaisse le suivi des maîtres en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui suit un autre maître en dehors d'Allah a délaissé le suivi de ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a révélé. Également, nous retrouvons la parole d'Allah, azza wa jal, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et quiconque s'oppose au messager après que la guidée lui est clairement apparue et suit un autre sentier que celui des croyants. Donc celui qui suit autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé aura certes suivi un autre sentier que celui des croyants. Quant aux preuves de la sunna, nous avons le hadith d'Abu Umama al-Bahili, radiallahu an, qui est rapporté par l'imam Ahmed et l'imam al-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne ne s'est égaré après être sur une guidée, sans qu'il ne leur fût donné la polémique. » Et certains de ceux qui ont expliqué ce hadith ont dit que la sunna leur fut enlevée à cause du fait qu'ils polémiquent dans le faux. Et tout ceci nous indique la véracité de la parole de l'auteur lorsqu'il dit que celui qui introduit une innovation délaisse une part équivalente de la sunna. Et il faut savoir que lorsque l'innovateur innove, une part équivalente de la sunna lui est enlevée pour trois raisons. La première est que lorsqu'il innove, il immensifie son opinion. Et lorsqu'il immensifie sa passion et son opinion, il rejette une part équivalente de la sunna. L'imam al-Darimi rahmahullah rapporte, d'après l'imam al-Awza'i rahmahullah, qui a dit: ceci est le but de tout innovateur en islam, rejeter ce qui s'oppose à son opinion de la sunna. La deuxième raison est que les deux contraires ne peuvent pas être réunis dans un seul endroit ils ne peuvent pas être en hausse en même temps. Par exemple, celui qui est assis ne sera pas debout. Et celui qui est debout ne sera pas assis. Car il ne peut pas être debout et assis en même temps. Et la sunna est le contraire de l'innovation. Ainsi, lorsque l'innovation apparaît, la sunna disparaît et vice-versa. Il n'est pas possible de trouver dans un seul cœur deux contraires. Et l'éminent savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous a confirmé cela en évoquant le cas de la musique. Lorsque l'amour de la musique se trouve dans un cœur, tu n'y trouveras pas l'amour du Coran. Soit il y aura l'amour du Coran, ou il y aura l'amour de la musique, mais pas les deux en même temps. La troisième raison est que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam contient la mise en garde contre l'innovation. Ainsi, lorsqu'une personne commet une innovation, cette sunna lui est enlevée et il s'est opposé à cette sunna qui contient la mise en garde contre l'innovation. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, prenez garde aux choses nouvelles insignifiantes, car les petites innovations se répètent jusqu'à devenir grandes. Il en fut ainsi pour toutes les innovations introduites dans cette communauté. Elles étaient au départ insignifiantes, ressemblantes à la vérité, et c'est ainsi qu'elles étaient considérées par celui qui les a adoptées, sans pouvoir en sortir par la suite. Elles sont devenues une religion s'opposant à la voie droite et ainsi il est sorti de l'islam. Ce passage comporte 5 points. Le premier est la mise en garde contre les petites innovations. Le deuxième point est que les petites innovations se répètent jusqu'à devenir grande. Et il est probable qu'elle sorte son auteur de l'islam. Le troisième point est que l'innovation ressemble à la vérité. C'est-à-dire que l'innovation comporte une part de vrai et une part de faux. Le quatrième point est qu'il se peut que certains soient trompés par l'innovation. Et la cause à cela est qu'elle comporte une part de vrai et une part de faux. Et le cinquième point est qu'il se peut que l'innovation soit devenue une religion et une sunna pour certains adeptes de l'innovation. Et dans ce cas, il sera très difficile pour eux de la délaisser. Et ces cinq points furent cités dans le affaire de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, qui est rapporté par l'imam al-Darimi. D'après Amr ibn Yahya, qui rapporte avoir entendu son père rapporter de son père la parole suivante. Nous avions pour habitude de nous asseoir devant la porte de Abdullah ibn Mas'ud avant la prière de l'aube afin de pouvoir marcher avec lui jusqu'à la mosquée lorsqu'il sortait. Abu Musa al-Ash'ari vint alors à nous et dit « Abu Abdurrahman, est-il déjà sorti vers vous ?» Donc Abu Abdurrahman, c'est la kunya de Abdullah ibn Mas'ud. Nous lui dîmes que non, il n'était pas encore sorti. Il s'assit donc avec nous jusqu'à ce qu'il sorte. Lorsqu'il sortit, nous nous levâmes tous en sa direction. Et Abu Moussa lui dit, Ô Abba Abdurrahman, je viens certes de voir à la mosquée une chose que j'ai réprouvée, mais louange à Allah, je n'ai vu que du bien. Alors Abdullah ibn Mas'ud de lui dire, quelle est cette chose? Il répondit, si tu vis, tu le verras aussi. Puis il dit, j'ai vu à la mosquée des gens assis en cercle, en train d'attendre la prière. Un homme se tient dans chaque cercle, alors qu'ils ont des cailloux dans les mains. Et l'homme leur dit, dites Allahu Akbar 100 fois. Et ils le disent 100 fois. Et leur dit ensuite, dites la ilaha illallah 100 fois. Et ils le disent alors 100 fois. Puis il leur dit, dites subhanallah 100 fois. Et ils le disent alors 100 fois. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an lui dit alors, que leur as-tu dit? Et Abu Moussa radiallahu an répondit, je ne leur ai rien dit, dans l'attente de ton ordre ou de ton avis. Et Abdullah ibn Mas'ud lui dit alors, tu aurais pu leur ordonner de compter leurs péchés et leur garantir qu'aucune de leurs bonnes actions ne sera perdue. Le rapporteur de ce affar dit par la suite, il est alors parti, et nous sommes partis avec lui, jusqu'à ce qu'il arrive à l'un de ses cercles. Il se mit alors debout devant eux et dit, qu'est-ce que je vous vois faire? Ils répondirent, ô Abba Abdurrahman, ce sont des cailloux avec lesquels nous comptons le takbir, le tahlil et le tasbih. Donc le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Et le tahlil, le fait de dire La ilaha illallah. Et le tasbih, le fait de dire Subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud leur dit alors, comptez plutôt vos péchés. Et je vous garantis qu'aucune de vos bonnes actions ne sera perdue. Malheur à vous, ô communauté de Mohammed, comme votre père t'est rapide, les compagnons de votre prophète sont présents parmi vous. Ses vêtements ne sont toujours pas usés et ses récipients ne sont toujours pas cassés. Je jure par celui qui détient son âme en sa main que vous êtes sur une religion plus droite que la religion de Mohammed, ou alors que vous êtes en train d'ouvrir une porte d'égarement. Ils dirent, ô Abba Abdurrahman, nous ne voulions que le bien. Il leur répondit, et combien sont ceux à vouloir le bien sans ne jamais l'atteindre? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a certes rapporté que des gens réciteront le Coran, mais qu'il ne dépassera pas leur gosier. Par Allah, je ne sais pas, mais je crains que la majorité d'entre eux soit parmi vous, puis il partit. Et Amr ibn Salama, le rapporteur de ce affar, dit par la suite, nous avons vu la majorité de ces gens nous combattre le jour de Nahrawan avec les Khawarij. Allahu Akbar. Et ce affar est authentique. Dans ce affar, nous retrouvons les 5 points mentionnés précédemment. Le premier point est la mise en garde contre les petites innovations. Et dans ce affar, Abdullah ibn Mas'ud et Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhuma blâment ces gens pour avoir évoqué Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière. Quant au deuxième point, qui est que les petites innovations se répètent jusqu'à devenir grandes, et il est probable qu'elle sorte son auteur de l'islam, ceci apparaît clairement dans ce affar. car ces gens ont fini par combattre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les Khawarij. Et à la tête des compagnons à cette époque, il y avait Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et il se peut que quelqu'un me dise, dans le deuxième point, nous avons dit qu'il est probable que l'innovation finisse par sortir la personne de l'islam. N'y aurait-il pas un exemple dans cela ? La réponse à cette question est qu'il y a beaucoup d'exemples concernant ce sujet. Parmi eux, l'histoire du peuple de Nuh, alayhi salam, ils ont commencé par faire des représentations de certains pieux, de leur peuple, qui sont morts quasiment en même temps. Puis par la suite, les gens se mirent à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont commencé par une innovation, puis ils ont terminé par du shirk. Le troisième point est que l'innovation ressemble à la vérité. C'est-à-dire que l'innovation comporte une part de vrai et une part de faux. On retrouve cela dans la parole d'Abu Moussa radiallahu anhu lorsqu'il dit « Ô Abu Abdurrahman, je viens certes de voir à la mosquée une chose que j'ai réprouvée, mais louange à Allah, je n'ai vu que du bien. » Il dit cela car en apparence, cette action est bien. Cependant, la manière de faire est mauvaise. C'est pour cela qu'il les a blâmés. Ce qui indique que l'innovation comporte une part de vrai et une part de faux. Et l'éminent savant, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmahullah, dit à ce sujet, l'innovation ne contient jamais que du faux. Car si tel était le cas, les gens n'auraient pas été trompés par celle-ci et ne l'auraient pas commise. Et elle n'est jamais totalement vraie, car sinon, ce n'aurait pas été une innovation. Le quatrième point est qu'il se peut que certains soient trompés par l'innovation. Et la cause à cela est qu'elle comporte une part de vrai et une part de faux. Et ceci apparaît clairement dans ce affaire. Car ces gens étaient nombreux à faire cette innovation, car ils étaient en groupe. Le cinquième point est qu'il se peut que l'innovation soit devenue une religion et une sunna pour certains adeptes de l'innovation. Et si c'est le cas, il sera très difficile pour eux de la délaisser. Et on tire cela de ce affar, car la plupart de ces gens sont devenus des khawarij. Et ceci nous indique que lorsqu'ils ont combattu les compagnons, ils avaient la conviction que ceci faisait partie de la religion et qu'ils étaient sur la vérité. Car sinon, ils ne seraient pas allés jusqu'à combattre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont à leur tête il y avait Ali ibn Abi Talib, qui fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a plusieurs enseignements à tirer de ce affaire. Néanmoins, nous allons nous attarder sur l'éclaircissement d'un point important. De nos jours, certaines personnes prennent ce affaire comme preuve pour dire que seuls les savants peuvent réprouver le mal. Et en vérité, cette parole n'est pas tout à fait juste. Et cette parole mérite beaucoup plus de détails. Car en vérité, on ne peut pas l'affirmer, ni l'infirmer. Néanmoins, il y a trois points dans ce affaire qui nous montrent que cette parole n'est pas tout à fait juste. Tout d'abord, il faut savoir que le blâmable est de deux types. Le premier est celui qui est apparent, et que tout le monde connaît, que ce soit les gens de la masse ou même les étudiants en sciences. Le deuxième est le blâmable qui va être caché et que seuls les savants sont en mesure de blâmer. Et ces deux catégories furent mentionnées par l'imam al-Nawawi dans son livre intitulé Rawdat al-Talibin et également dans son explication de Sahih Muslim. Il dit, rahimahullah, les choses apparentes et obligatoires, ainsi que les choses blâmables qui sont apparentes, doivent être blâmées par les gens de la masse, car dans cela, ils sont savants. C'est-à-dire, ils savent que cette chose, par exemple, obligatoire a été délaissée et que cette chose blâmable a été commise. Il poursuit en disant, rahimahullah, quant aux choses minutieuses qu'on va trouver dans certaines œuvres ou certaines paroles, ceci revient aux savants et aux étudiants en sciences. Fin de citation. Néanmoins, il est impératif de savoir que dans certains sujets, l'étudiant en sciences n'a pas son mot à dire. Comme par exemple, dans les événements qui touchent la communauté. Ici, l'étudiant en sciences n'aura pas son mot à dire et devra attendre que les savants s'expriment sur cette affaire. Et une fois qu'ils se seront exprimés, il transmettra leurs paroles aux gens. Cependant, dans certains sujets, l'étudiant en sciences n'a pas besoin de revenir aux savants. Imaginons qu'une personne demande un conseil à un étudiant et lui dit « Que me conseilles-tu ? D'aller étudier chez Cheikh Salih Al-Fawzan ou alors d'étudier avec Mohamed Al-Arifi ?» Ici, l'étudiant devra répondre « Je te conseille d'aller étudier chez Cheikh Salih Al-Fawzan. » Et nous n'allons pas lui dire « Ne parle pas dans cette affaire. » Car ici, il s'est basé sur la méthodologie des savants qui mettent en garde contre les innovateurs. Quant aux trois points dans ce affaire qui indique que dire que seuls les savants peuvent interdire le blâmable n'est pas tout à fait juste. Premièrement, Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, est venu voir Abdullah ibn Mas'ud et l'a informé qu'il a blâmé ce qu'il a vu dans la mosquée. Et personne ne lui a reproché d'avoir devancé Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Cependant, il est venu demander confirmation à Abdullah ibn Mas'ud quant à cette affaire. Deuxièmement, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit à Abu Moussa al-Ash'ari, après qu'il l'ait informé de ce qu'il a vu, « Que leur as-tu dit ?» Donc ici, c'est comme si Abdullah ibn Mas'ud attendait qu'il lui dise « Je les ai blâmés ». Et pour finir, lorsque Abdullah ibn Mas'ud dit à Abu Moussa al-Ash'ari, tu aurais pu leur ordonner de compter leurs péchés et leur garantir qu'aucune de leurs bonnes actions ne sera perdue. Ceci est un enseignement. Il voulait lui faire comprendre qu'il aurait dû les blâmer sévèrement avant de venir le voir. Donc en résumé, il n'est pas tout à fait juste de dire que seuls les savants peuvent interdire le blâmable. Et il y a de nombreuses preuves dans le Coran et la Sunna qui indiquent cela. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.